Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec.
Une femme solidement impliquée dans le domaine et le milieu du camionnage. Elle est présente partout. C'est Joanne Couture. Bienvenue à Truck Stop Québec.
Salut Benoît, bonjour, bonne journée.
Joanne, quand je dis impliquée, t'es impliquée dans le transport. Tu fais partie de différents comités, hein?
Oui, je suis sur le CA de l'OOIDA, qui est la Owner Operator Independent Driver Association.
Oui.
Qui représente 150 000 membres aux États-Unis puis au Canada.
C'est la plus grosse association, right?
C'est une des plus grosses en fait de nombre de membres représentés à travers l'Amérique du Nord qui représente les chauffeurs.
OK. Et tu t'es toujours impliqué au niveau de l'OIDA. Y a-tu d'autres associations ou regroupements dont tu fais partie?
Oui, je suis aussi directrice exécutive pour la Women's Trucking Federation of Canada.
OK.
Oui.
Et on fait quoi chez la Women Trucking Association au Canada? Est-ce qu'on parle des sujets qui touchent majoritairement les femmes? Est-ce qu'on essaye de défendre le droit ou faire avancer le droit des femmes?
On défend le droit des chauffeurs.
OK.
On fait de la sensibilisation pour essayer d'attirer les femmes dans l'industrie du transport. Mais
okay.
En fait, de représentation, c'est représentation de tous les chauffeurs. On est vraiment actifs sur les réseaux sociaux.
Oui.
Puis il y a toujours de la bonne information à avoir.
Puis est-ce que c'est difficile en 2025 d'attirer la gente féminine dans notre industrie? Est-ce que on est sexy comme métier pour les femmes?
Pas vraiment.
OK.
C'est pas difficile, mais c'est d'essayer de contraindre les mythes qu'on a, que
ouais.
Ben, c'est un job trop dur ou t'es toujours parti. C'est d'expliquer qu'il y a tellement de facettes de différentes parties de notre industrie. C'est
ouais.
pas tout le monde qui va faire de la Californie chercher les fruits et légumes.
Effectivement.
Il y a quelqu'un qui va livrer les fruits et légumes au magasin de grosserie.
Ouais.
Fait que c'est d'essayer de faire de la sensibilisation où il y a tellement de possibilités dans notre industrie.
Oui, effectivement. Là, tu es aussi membre de l'OIDA. Que pense l'OIDA avec le doute ou je ne sais plus là, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, là, les menaces de tarification de 25% de M. Trump envers les exportations canadiennes?
On continue de regarder sur quel pied qui danse, dépendant de la journée, parce que, comme qu'on a vu jusqu'à date, on n'est pas certain d'une journée à l'autre s'il va émettre, s'il ne va pas émettre. Mais c'est certain que s'il met les tarifs douaniers, ça va affecter nos deux économies. Pas juste d'un côté ou de l'autre, ça va affecter l'économie américaine
ouais.
aussi, parce que c'est eux autres qui payent les tarifs qui sont que le 25% là, qui en est parlé. Là.
Ouais.
Fait que ça va remonter les prix de pétrole, les prix de biens. De notre côté, ça va affecter les emplois possiblement très vite. Fait que parce que l'industrie l'industrie de production d'automobiles
oui.
pourrait être affectée dans un si court délai qu'une semaine. Fait que c'est là que ça pourrait faire mal, puis mal partout. Mais on sait que M. Trump est un fin renard de négociation.
Oui.
Fait que ses discussions de 25% de tarifs pour les deux côtés, que ce soit le Mexique ou le Canada, c'est peut-être encore la négociation jusqu'à la dernière minute.
Forme de menace pour obtenir ce qu'il veut?
Oui. Ouais.
Okay.
C'est possiblement ça. Fait on regarde ce qui se passe, mais on n'a pas pris de position officielle jusqu'à date parce que ben il a pas mis de tarif jusqu'à date. Fait que
c'est
on attend de voir ce qu'il va faire. Fait que,
ben, c'est parce qu'il y a un dirigeant d'une aluminerie qui est sorti en disant « Vous allez perdre 100 000 jobs aux États-Unis si vous imposez des tarifs de 25 %. » On va en perdre ici, de ce côté ici de la frontière, mais c'est 100 000 jobs américains que vous perdez demain matin en faisant ça.
Oui. Puis, comme si vous regardez, là, faites un exercice de défaire un automobile puis prendre tous les morceaux. Là.
Oui.
Puis chaque morceau, combien de fois que le morceau passe à... aux douanes. Tu sais, tu fais une porte pour un automobile, ben le plastique puis le matériel, le tissu, il est pas tout fait à la même place où ce que la porte est soudée, assemblée, où ce que l'acier est soudé, assemblé ensemble. Fait que la porte a fait du voyage, là, possiblement pour sa frontière.
Ouais.
Si tu regardes tous les morceaux, là, fait qu'à chaque fois qu'un morceau d'un automobile avant d'être complètement assemblé, passe aux douanes.
Oui.
Il y a 25 % de tarif de rajouter.
Il revient en sol canadien, il y aurait peut-être d'imposition de tarif pour représailles. Fait que le même moto va peut-être coûter 20-30 % de plus cher, là.
Tu multiplies, là. Tu ne peux pas juste additionner, tu multiplies. Fait que c'est dur d'imaginer que quelqu'un qui a fait sa vie en faisant de la business, de la grosse business, comme Trump, trouve que c'est une bonne idée d'affecter les business qui payent des taxes.
Oui.
Malgré que son histoire de tarifs, c'est pour renforcer une possibilité de renflouer les coffres-forts de l'État, mais ça serait plus productif pour toutes nos économies, de renflouer les coûts de l'État en faisant de la production puis chargeant des taxes.
Ben, c'est parce que moi, je pense que tu peux pas te peinturer dans le coin en pensant que tout le monde, après ça, vont courir après toi. À un moment donné, si jamais il y avait imposition des tarifs, ben le stock, il va se vendre ailleurs qu'aux États-Unis. Puis, à un moment donné, quand l'administration américaine, s'il y en a une nouvelle un jour, vont dire, bien, on aimerait ça renouer, bien, ça sera plus le même prix. Puis les gens vont dire, bien, too bad, tu nous as renié une fois, peut-être que j'ai plus le goût de faire affaire avec toi.
Oui, absolument. Parce que ça arrive souvent, ça, en business, là.
Ben oui.
On a tous eu des clients qui ont changé d'idée, là.
Oui.
Fait que, qui ont changé de destination, fait que c'est définitivement une possibilité. Puis quand tu négocies pour essayer d'avoir le plus que tu peux pour ta part.
Oui, effectivement. Mais comment ça affecte le transport, Joanne? Le fait d'avoir des menaces qui nous planent toujours sur la tête. Là, on avait dit février. Bien, on avait dit janvier, quasiment au lendemain de la sermentation de Trump. Après ça, c'est devenu février. C'est devenu mars. Là, c'est reporté en avril. Rendu là, moi, je sais pas, je suis peut-être mal fait, mais j'ai comme peu ou pas d'espoir, puis c'est même pas un espoir, là, mais qu'il y ait des tarifs douaniers, c'est juste une forme de menace. Puis le temps qu'on tient en haleine le Canada, bien, on est capable de faire avancer d'autres choses.
Oui. Puis, en fait, d'affecter le transport, ça dépend, tout dépendant de quel côté, tes clients sont de quel côté. Soit tes clients veulent, OK, on fait le rush, là, puis on va prendre le plus de voyages de possible au mois de mars, avant que le mois de mars arrive. Ou c'est l'opposé, on va manger les tarifs, fait que nos clients américains ont cancellé leur commande.
Ouais.
Fait que là, j'ai rien de donné, là. Parce que quand on a eu la première, au début février, la première menace de tarifs, là, c'est qu'on a eu des rapports, là, que il y a des gars qui sont rentrés pour aller travailler, puis ils se sont fait dire, bon, tous tes prochains voyages sont cancellés.
Oui. Oh oui.
Trouve-toi un autre job.
Oui. Puis ça, c'est triste, là.
Oui, puis il y a justement un sondage qui a été fait par l'OTA, là, récemment, la semaine passée, je pense, là.
Oui.
Puis 32 % des transporteurs canadiens ont fait des mises à pied.
Hey, c'est incroyable d'entendre ça, là, tu sais. On sait-tu c'est quoi les domaines les plus touchés? C'est-tu du transport général? C'est-tu, tu sais, du transport, disons, de métaux? On ne sait pas c'est dans quel domaine que ça touche le plus, hein?
Je pense que ça pourrait affecter tout. Okay. Parce que tout est interrelié puis tellement intégré en frais de chaîne d'approvisionnement que ça affecte tout comme... Il y a peut-être la tâche de Tim Horton qui n'est pas affectée, là, mais
ouais.
À propos de ça.
Puis encore.
En frais. Puis encore, oui. Fait que, en général, ça va affecter tout le monde. Même les menaces.
Oui.
Même s'ils ne mettent pas un seul tarif, mais parce qu'ils jouent la game de menaces, ça affecte. Parce que c'est de l'incertitude.
Oui.
Puis en business, l'incertitude, c'est jamais une bonne chose, là.
Ça, c'est vrai. Puis en plus, ben tu fais réagir les marchés des fois négativement, ce qui fait que... Puis d'un autre côté, tu sais, il y a peut-être un côté positif à ça. Il y a des entreprises qui disent, j'aurais 200 trucks, j'aurais 200 voyages parce que tout le monde veut shipper ça avant l'imposition des tarifs.
Oui. Mais s'il y en a une imposition des tarifs ou il y a une autre menace avec une autre date dans le futur, ça va-tu durer?
Oui.
Parce que tes voyages qui sont shippés là, à vitesse, là,
ouais.
Ils vont-tu durer? Étais-tu planifié dans le grand plan avant les tarifs d'être chippé tant que ça?
Fait
que, c'est normal dans le transport que ça joue les montagnes russes. Ça monte, ça descend. Comme les tarifs, les taux, pas les tarifs, les taux, puis le volume de voyage. Ça monte, ça descend, ça fait des années, ça fait 30 ans que je suis dans l'industrie, ça fait bien plus longtemps que ça, que ça fait ça. Fait que c'est ceux qui sont préparés pour les montagnes russes, que ça fait des années qu'ils ont de l'expérience dans l'industrie, vont survivre. Ils vont peut-être réduire leur effectif, mais ils vont survivre.
Oui.
Ceux qui sont pas préparés,
ça va être
les nouveaux qui ont... Les nouveaux qui ont rentré dans l'industrie dans le temps de la COVID, quand les taux étaient hauts, là.
Oui.
Puis... Il n'y avait pas de safety net en fait de compte de banque. Là.
Oui.
Eux autres, ça ne durera pas.
Puis des fois, ils sont sur le vieux gagné, comme on appelle. Là, fait qu'ils grugent dans le vieux gagné pour essayer de survivre. Mais est-ce que le dollar américain a aussi une tendance à réduire? Tu sais, je me dis toujours, l'Américain là, qui regarde qu'il y a un taux de 45% ou à peu près, là, lui, il doit se dire, tabarnouche, là, on fait du cash à côté avec le Canada. Ben, je vais commander du Canadien parce que ben j'obtiens peut-être 25 % dans ma pièce de plus, tu sais.
C'est justement ça, c'est quelque chose qui est en notre faveur.
OK.
En frais de vente, en frais d'exportation, là. Il n'est pas en notre faveur en frais de retour, là.
Oui.
Mais il est en notre faveur en frais d'exportation. Ça pourrait minimiser l'effet de tarifs si les tarifs sont imposés. Parce que le dollar, si les tarifs sont imposés, les économistes ont dit que le dollar va chuter encore plus qu'il est comme c'est là.
Ah oui.
Fait que ça va, à place d'être, quand tu fais l'équation finale, là, à place d'être un tarif de 25 % quand tu prends à compte le taux d'imposition, ça va réduire le tarif de quelques pourcentages. Là.
Oui.
Fait que ça pourrait minimiser.
Mais tu sais, Joanne, est-ce que juste le fait qu'on ait un dollar faible versus le dollar américain, le dollar canadien étant faible, est-ce que Trump, d'un côté négociateur, ben attend que la pièce chute, puis après ça, on va imposer le tarif. Fait comme ça, ben, il va se financer sur le dos de son dollar américain. Là.
Il y a peut-être des bons mathématiciens, économistes et mathématiciens de son côté qui sont capables de faire ces équations-là pour, justement.
Ouais.
Il est pas fou, le gars, là. Il est pas toujours aimé, mais il est pas fou. Il y a des fois qu'il y a des idées un peu, qui semblent un peu farfelues. Mais en bout de ligne, il y a peut-être quelque chose. les tarifs, c'est, ça fait, dans, à mon opinion, ça fait partie des idées farfelues, là.
Oui.
Donc, moi, je le vois plus comme c'est des menaces de négociation. Parce que même le New York Times, pas le New York, le Wall Street Journal a fait des études, puis a dit que c'est une guerre économique qui fait pas de sens.
Qu'est-ce que pensent les gens autour de toi, Joanne, quand M. Trump dit « On aimerait ça indexer, annexer le Canada aux États-Unis, qui deviennent le 51e État. » Est-ce que c'est positif? Est-ce que les gens disent « Oh, non, pantoute. » C'est quoi la réaction autour de toi?
Ça dépend comment d'informations les gens ont. Parce que si tu écoutes toujours le même poste de nouvelles à TV, là, t'as juste une idée.
Ouais, une opinion.
Si tu fais pas plus de recherches, là, t'as pas entendu l'autre côté.
Oui.
Je suis canadienne 100% pure laine, là.
Oui.
Je suis venue au monde dans le nord du Québec et j'ai pas l'intention de devenir américaine. Ça dit, il y a des gens en Europe qui disaient la même chose quand l'Union européenne a été créée.
Oui.
Puis, il y a des choses qui ont été bonnes pour l'Union européenne, il y a des choses qui ne le sont pas.
Oui, ça c'est vrai.
Un dollar commun à travers l'Amérique du Nord, donc le Canada, les États, puis le Mexique.
Oui.
Ça serait possiblement mieux économiquement pour les trois pays.
Si on était les trois ensemble, tu sais, un genre d'Union européenne, mais une Union Amérique du Nord. Là.
Oui. Okay. Donc, ça serait comme faire l'Union, comme l'Union européenne, okay, où il y a un dollar commun.
Oui.
Il y a le passeport devient pour l'Union au complet.
Okay.
Donc, les Européens peuvent se promener partout dans l'Union européenne avec leur passeport, sans visa ou tout ça.
On a éliminé la paperasse puis la forme de douane entre les différents pays.
Oui.
OK.
Ça dit, il y a des choses que moi, je veux vraiment pas changer. Puis, on a peut-être des différences d'opinion là, parce que je t'en ai entendu parler avant.
Oui.
En frais de nos systèmes de santé.
Oui.
Notre système de santé traite tout le monde sur le même pied d'égalité.
Je suis d'accord.
Tout le monde qui rentre avec une patte cassée va sortir avec un X-ray et un cloud.
Oui.
Puis pas de bill.
Oui.
La même patte cassée, là, dépendant où tu es aux États, là, elle va peut-être te coûter bien plus cher. Puis la personne qui est à bas revenu, elle va peut-être pas avoir les mêmes soins.
Disons qu'elle n'aura peut-être pas autant de convalescence à l'intérieur d'hôpital. Là. On te répare la jambe, va-t'en. Mais il y a un fait indéniable. On dit qu'on ne paye pas ici, mais on le paye quelque part dans nos impôts. Oui. C'est $1 milliard par semaine. Est-ce qu'on pourrait être plus, disons, mieux géré? Moi, je pense que oui. Mais les gouvernements ne semblent pas vouloir gérer mieux notre système de santé.
Ce côté-là du système de santé, je suis absolument d'accord avec toi. La façon que c'est géré comme c'est là pourrait être plus efficace.
Ouais.
Mais en frais de traiter les gens au même pied d'égalité, c'est deux mondes, c'est deux poids, deux mesures, le Canada et les États-là.
Ouais.
Parce que quelqu'un qui est à faible revenu va peut-être pas aller chez le médecin autant qu'il devrait, puis sa santé va détériorer plus vite aux États qu'au Canada, où ça file pas, je vais aller chez le médecin, là, ça va pas affecter ce que je vais manger la semaine prochaine, parce qu'il va avoir, je vais pas sortir de l'argent de mon compte de banque pour aller chez le médecin.
Ça, c'est clair. Mais il y a une tendance américaine qui se développe rapidement, c'est que les entreprises trouvent le moyen de se payer un genre de clinique privée ou docteur privé ou whatever, puis ils disent à leurs employés, ben tant que tu travailles pour moi, ben je t'offre les services de médecine, tu sais, je sais pas, 20 % du coût, 10 % du coût, 50 % du coût, je paye l'autre partie. Fait que ça incite les employés à venir travailler pour ces entreprises-là parce qu'ils ont des programmes sociaux comme ça.
Oui. Mais si tu veux changer de médecin parce que tu n'aimes pas la face...
Ah, t'es fait.
Parce que t'es fait.
Oui.
T'as pas de choix.
Non.
Fait que il y a des fois qu'on dit au système canadien qu'on n'a pas grand choix, mais c'est la même chose. Peut-être différemment, mais c'est la même chose en fait de manque de choix aux
ouais.
États-Unis aussi.
Oui.
Fait que t'es plus... Puis si la job que t'as qui te donne de l'assurance médicale...
Oui.
C'est un job que tu détestes, mais c'est la seule job parce que t'es en quelque part rural, t'es dans le milieu du Wyoming, c'est la seule place qu'il y a des jobs.
Oui.
Et tu détestes la job. T'es pris.
T'es fait.
T'es fait parce que t'as peut-être un membre de la famille qui a besoin de plus de médicaments, qui a besoin de soins médicaux. Fait que l'assurance, tu peux pas la perdre.
Oui.
T'es fait. Fait que t'as moins de choix. Fait qu'il y a des... C'est deux systèmes, c'est deux poids, deux mesures, mais ils ont toutes les deux quelque chose de positif, quelque chose de négatif.
Oui, effectivement. Dernièrement, Joanne, on a reçu abondamment de la neige, disons au Québec, des fois peut-être moins ailleurs, mais on a quand même reçu dans des secteurs plus qu'un mètre de neige là, en deux tempêtes. Il y en a d'autres qui sont annoncés en fin de semaine. Donc, j'ai comme l'impression que ça va commencer à devenir, parce que là, bien, on est en transition, le printemps s'en vient. Il ne faut pas se leurrer, là, ça a fondu beaucoup dans les dernières heures. Est-ce qu'il faut adapter? Est-ce que les gens sont prudents? Est-ce que la conduite, dans des conditions où ils s'amassent de l'eau, il y a encore de la neige, tout ça, est-ce que les gens sont encore sécuritaires au volant?
Il y en a qui le sont. Ça, c'est ceux qui pensent avec leur tête.
Oui.
Mais il y en a d'autres, là, que ça prévoit pas, ça pense pas. C'est faut... Une grosse partie de notre job, là, c'est prévoir ça pourrait arriver.
Oui.
Ça arrivera peut-être pas, mais ça pourrait.
Oui.
Donc, pour utiliser ton exemple, la grosse flaque d'eau, parce que il y a un drain... Qui est bloqué, qui est gelé, qui n'a ouais. pas fondu, qui a quelque chose dessus. En tout cas, la grosse flaque d'eau, là, quand tu es sur le cruise control à 105,
ouais.
puis tu appoignes, puis qu'elle te fait voler, parce que tu n'es peut-être pas chargé, il y a des choses, il faut penser, le cruise control en hiver, là,
c'est mortel.
C'est quelque chose qui devrait. Ça devrait pas être utilisé, là. À moins que tu aies sur des chemins bien secs puis il fait bien soleil.
Mais les publicités, mais hiver, Joanne, là, disent toujours d'adapter sa conduite aux conditions oui. météo. Oui. Moi aussi, c'est ça à glace. Tu ne me verras pas mettre un cruise control. Si tu es sur l'asphalte, je suis tel que tel. Mêlée, mêlée pas, c'est pas grave. Mais quand tu es sur la neige, quand tu es sur la glace, quand il y a des conditions où tu pourrais faire de l'aquaplanage, c'est excessivement dangereux d'utiliser un cruise control, là.
Absolument. Puis ça, c'est quelque chose de peut-être rappeler aux gens là, que adapter sa conduite aux conditions, là, c'est, ça explique peut-être pas trop pour tout le monde. Là, tu sais?
Oui.
Ah, ouais, ouais, il faut que je ralentisse. Ouais. OK, mais ralentis pas sur le cruise control. Parce que le cruise, le cruise control, il ne voit pas la flaque d'eau. Là.
Non.
Tu devrais avoir, puis tu devrais, puis pas avoir besoin de mettre les briques. Tu devrais savoir où est le piton pour déenclencher le cruise control.
Puis pas juste ça. Pas
nécessairement.
Tu sais, Joanne, là, un cruise control, si tu passes dans la flaque d'eau et tu avais cruisé à 105, mettons, puis que là, ben, à cause de X raisons, tu pognes la flaque d'eau, puis il y a des cruise control qui sont assez intelligents qui se désactivent, mais il y en a qui continuent. Fait que là, si tu drops à 100, ben lui, il redonne du fuel pour monter ça à 105. Là.
Oui. Exactement. Puis t'as fait que ceux qui déclenchent le cruise control, t'as fait que la conduite de la personne à l'arrière.
Oui.
Parce que moi, quand je vois des lumières à briques allumées, là, oui. je me demande qu'est-ce qui se passe.
Oui.
Fait qu'automatiquement, je slack la pédale. J'ai un voyage de liquide. Quand tu slack la pédale, puis tu remontes la pédale, tu fais une pack.
Oui. Fait que... Ça a-t-il une incidence énorme sur une conduite hivernale d'avoir une vague dans une citerne?
Faux. Quand tu ajustes... Quand quelqu'un qui choisit pas une citerne, ajuste sa conduite pour les conditions hivernales, rajoute 50%, puis moi, c'est là qu'il faut que j'ajuste.
OK.
Faut que j'ajuste bien avant. Fait que quelqu'un qui déclenche le cruise control en tapant sa pédale à brique, automatiquement, là, moi, je slack la pédale.
OK.
Parce que je sais pas pourquoi c'était touché les briques.
Il y avait une raison quelque part.
Oui.
Bonne ou pas bonne, c'est pas grave. Mais c'est parce que je ne veux pas arriver dans ton derrière et que la vague me pousse. Parce que, mettons que tu freines sec, là, est-ce qu'on a des données ou est-ce que tu as déjà eu l'expérience de freiner brusquement puis que la vague t'a poussé peut-être quoi, 20 pieds plus que ce que tu avais présumé ou ce que tu arrêterais?
Le pire, là, c'est... Le pire, c'est toucher les briques plus qu'une fois.
OK.
Fait qu'en citerne, tu me tiens ces briques. Quand tu arrives dans la rampe pour débarquer de la sortie, là, tu as déjà ralenti, tu prends la rampe.
Ouais.
Et quand tu touches les briques, tu n'enlèves pas le pied des briques jusqu'à temps que tu arrives au stop.
Okay.
Parce que si tu enlèves le pied des briques puis tu remets le pied sur les briques, c'est là que la vague elle vient te taper là, dans le dos. Là.
Ouais.
Puis c'est là qu'il est le pire qui va faire exactement. Quand je vais arriver au stop, là, elle va me slammer. Puis si c'est glissant, elle va passer à travers l'intersection.
Okay. Fait que, mais mettons que quelqu'un te coupe, puis t'es debout de sa pédale à brique pour essayer de freiner parce que quelqu'un t'a coupé. Ouais. Est-ce que la vague a beaucoup de power pour te propulser bien plus loin ou c'est, on peut parler de peut-être quoi, une vingtaine, trentaine, cinquantaine de pieds?
C'est pas quand t'as fait la première fois. Quand je mets le pied sur les briques parce que quelqu'un m'a coupé, là, ça va me taper dans le dos.
Okay.
Mais quand t'as va revenir, parce que là, j'ai arrêté. Fait que là, la vague, elle vient te faire ça en avant.
Oui.
Faut qu'elle retourne en arrière.
Okay.
Quand elle revient la deuxième fois, là, elle a bien plus de momentum.
Oui, parce que là, après un swing, puis elle devient... Mais j'ai toujours pensé que c'était compartimenté, des citernes.
Non.
OK.
C'est pas... Puis il y a bien du monde qui pense ça. Celle-là, je l'entends souvent.
OK.
Les citernes... à fuel, donc qui font la livraison de pétrole, là.
Oui.
Eux autres sont compartimentés.
OK.
Les citernes chimiques, on en a qui sont compartimentées,
okay.
Mais c'est une spécialité, là. Si tu as 100 trains-là dans ta flotte, tu en as peut-être 8 qui sont compartimentés.
OK.
Fait que c'est pas la norme.
OK.
Fait que la raison pourquoi, puis c'est alimentaire et chimique, c'est la même raison pour les deux. Parce qu'on ne met pas toujours le même produit dans la citerne, à part que le système de lait, mais le système de lait, ça s'applique encore la même chose. Il n'y a pas de baffle, de compartiment.
Okay.
Parce que quand on a fini de charrier un produit puis qu'on amène la citerne au lavage, puis qu'elle est lavée, on ne veut pas des raccoins. Là. Tu vas être capable de laver parce que la façon de laver une citerne, pour expliquer ça vite, là, à la maison, tu mets la vaisselle dans le lave-vaisselle.
OK.
Nous autres, on met le lave-vaisselle dans le trailer. Fait que le trou en haut, là, qu'on appelle le manhole en haut, là, tu mets c'est un gros machin en cylindrique, en forme de cône, qui rentre dans le trou.
OK.
Puis là, de là, il y a des sprayers qui six-down. Il s'étire la longueur du trailer, puis c'est comme les spinners dans ton lave-vaisselle.
Le principe du lave-vaisselle, là, tu sais.
Oui. Le lave-vaisselle va dans le trailer. Donc, tu veux pas des raccoins avec des baffles ou ce qui pourrait rester comme un produit plus collant, là.
Oui.
C'est du sirop de poteau, ça va coller dans le fond.
Oui.
Fait que, puis c'est la même raison que ce soit alimentaire ou chimique. C'est pour le nettoyage puis la sanitation, la certification du nettoyage entre chaque boîte.
Mais y a-tu du stock, Joanne, qui, je sais pas, de la mélasse, du sirop d'érable, des affaires de même qui sont très dures à faire partir, où les agents nettoyants sont puissants puis ça nettoie à grandeur de la citerne?
Ouais, les agents nettoyeurs sont puissants. Il y a différentes procédures.
Okay.
Comme en chimique. En chimique, tu vas laver au détergent ou tu vas laver au caustique. En alimentaire, il y a plus de procédures. Il y a, puis c'est des procédures de, OK, tu vas mettre de la steam dedans pour tant de minutes. Après okay. ça, tu vas laver au détergent pour tant de minutes. Après ça, tu vas faire de la
Ouais.
On va mettre ça sanitaire.
On va faire ça sanitaire.
fait que, puis il y a différentes procédures. Fait que c'est plus des agents de nettoyage. Là. Ça dépend ce qu'on utilise.
OK.
Pour faire partir.
Puis combien ça peut prendre de temps si tu as été livré, mettons, une citerne de, on va faire ça simple, du jus d'orange, tiens. Et qu'après ça, tu as été porté une citerne de melasse ou de sirop d'érable. On reste dans l'alimentaire. Est-ce que c'est aussi long, toute la gang, de les laver proprement? Ça prend combien de temps à laver ça, une citerne?
Ça prend à peu près, tout dépendant où tu vas, il y a des places de lavage qui sont plus vite que d'autres. Là.
Okay.
Tout dépendant de leur système, parce que c'est un système de lavage. Là.
Okay.
Fait que, encore, si tu achètes le lave-vaisselle haut de gamme, là, il va laver mieux puis il va laver plus vite que celui de bas de gamme. Fait que okay. c'est leur système.
Mais tu perds quoi? Une demi-heure? Une heure? Deux heures?
Non, tu perds une heure certain.
OK.
Possiblement, il y a des places que j'ai fait 8 heures. Ça dépend du
produit. Parce que c'était plein avant toi aussi, peut-être? Oui,
ouais, ça dépend combien de billes qui ont d'ouvertes.
OK.
Parce qu'il y a des lavages que tu vois, ils ont 2 billes, ou il y en a d'autres que tu vois, il y a 6, 7, 8 billes.
OK.
Fait que, dépendant où tu vas, tout dépendant du trafic qu'il y a là. Puis, tout dépendant, ça prend. Je vais te donner. L'alimentaire, c'est pas. Je veux pas m'en aller dans un chemin que je connais pas trop. Là. Moi, je fais juste du chimique. Là.
Toi, t'es dans le chimique.
Fait que si je te dis, j'ai du latex comme qui va dans peinture, latex, là.
Oui.
Ben, quand je finis de vider mon voyage, si je le vide à Chicago puis je reviens avec le trailer, le latex, il a le temps de durcir sur les parois, les côtés.
Okay.
Trailer à l'intérieur. Fait que là, ça va prendre une procédure plus longue pour faire fondre, disons, là.
Je comprends.
Ce qu'il y a sur les parois du côté.
Ouais.
Pour être capable de tout sortir. Fait que c'est, le processus devient plus d'étapes.
Okay.
Mais si je reviens avec une citerne que j'ai livré de l'huile à moteur.
Ouais.
Ça, c'est plus vite. Parce qu'il y a juste une partie de la procédure.
Ouais. Okay.
Ils mettent un lavage caustique, puis tu peux être sorti. Il y a des places où ils ont des bons systèmes qui vont vite, ou avec l'huile moteur, 45 minutes, puis tu es parti. Là.
C'est quand même phénoménal de dire, bon, ben regarde, on va nettoyer de l'huile moteur, c'est moins long des fois que certains autres produits. C'est quand même spécial d'entendre ça.
Oui. Comme... Il y a des choses que tu ne penserais pas, là, comme de la cire pour faire des chandelles. Là.
Ouais.
Quand on arrive avec ça, là, le gars du lavage, il nous regarde, il fait « Oh non, pas de la cire. » Parce que c'est une longue procédure.
Okay.
Non, il n'aime pas ça. C'est une plus longue procédure.
Okay.
Fait qu'ils font pas autant de trailers dans leur journée, là,
okay.
en frais de service. Là.
Okay. Ben, c'est-tu le même prix que ça soit de la cire de chandelle, de l'huile à moteur ou n'importe quel autre produit que tu mets d'une citerne?
Ça dépend où tu vas. D'habitude, on a... Comme d'habitude, les transporteurs ont des contrats avec les pétrolières, là, fait que tu fioles une place, tu vas avoir le meilleur prix. C'est la même chose avec les systèmes de lavage. Il y a différentes compagnies au Canada puis aux États. Rendu que c'est avec une des grosses compagnies avec qui on a un contrat, le prix est pas mal pareil.
Okay.
Ils vont rajouter le prix de lavage va être pareil, mais ils vont rajouter des extras. Okay. Donc, si ton produit est à bain collant, comme le latex, puis il t'en reste, on appelle ça du résidu, là, du heel en anglais.
Oui.
Fait que s'ils ont besoin, s'il en reste quand tu arrives au lavage, là, ils vont te charger au galon.
OK.
Fait que c'est comme. Puis, pour eux autres, s'en débarrasser, là, ils mettent ça dans une tank. Pour eux autres, il faut qu'ils s'en fassent débarrasser. Fait que
ouais, il y a un coût pour le nettoyeur de remplir sa tank, là, tu sais.
Oui, ça coûte cher au galon, là, fait qu'on se fait dire souvent, là, faites certains checkers, vous n'avez pas du.
Ils envoient ça où? Certainement pas d'une usine de filtration, là, tu sais. Ils envoient ça où, les résidus?
Non, c'est comme une compagnie comme Safety Clean qui va venir.
OK.
Tu sais, la compagnie qui vient chercher comme de l'huile usée, là.
Oui, oui.
Bon, ils ont une division pour des produits chimiques comme ça, là, qui vont venir chercher. Puis ça s'en va dans un incinérateur.
OK. Fait que c'est envoyé dans l'air, mais tu sais, de façon plus propre que ce qui reste dans ta citerne.
Oui.
OK. Qu'est-ce que tu aurais à dire, mettons, aux camionneurs, aux entreprises qui ont peut-être la crainte du tarif d'imposition de Donald Trump de 25 % est-ce qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de bluff là-dedans? On ne sait pas s'il va les imposer, mais ça fait trois remises. Là. Après trois remises, comme ça, c'est comme quand tu es avec une blonde et tu lui dis « Ah, je vais te laisser, je reviens. Ah, je vais te laisser, je reviens. Ah, je vais te... » À un moment donné, décide-toi, tu restes avec ou tu fais juste la flocher, là, tu sais.
Ouais. Ou c'est elle qui dit « Bon, cette année,
ouais, oui. Ben oui. Ça peut être ça aussi, là, tu sais.
Oui. Moi, je pense, mon opinion personnelle,
ouais,
qui ne représente pas l'opinion de personne d'autre, là,
ouais, ouais,
c'est que c'est des tactiques de négociation.
OK.
Il veut fermer les frontières. Ça, c'est pas nouveau, là. C'est de son ancien mandat.
Oui.
Puis les drogues, malgré que, apparemment, la semaine passée, il y a plus de drogues qui sont rentrées au Canada qui s'en sont. S'en ont sorti,
ouais,
d'après les saisies. Fait que les drogues aussi, c'est là qu'il y a un problème. Mais ça, faut qu'il décide qui va être le chef, là, qui va être premier ministre pour une journée. Là.
Ouais.
Une fois qu'il est premier ministre pour une journée, qu'il colle une élection là, pour qu'on ait un vrai premier ministre avec un mandat. Là. Parce que ça prend quelqu'un pour négocier avec Trump qui est en position de force, là. Comme c'est là, on n'est pas en position de force pantoute, là.
Ouais. Fait que
ça va prendre... Faut avoir une élection, puis au plus vite. Ça devrait rassurer Trump et l'économie, possiblement faire taire les discussions de tarifs. C'est mon opinion, c'est ce que j'espère, mais on a besoin d'une élection là, pour se débarrasser du problème rouge qu'on a à Ottawa.
Ah oui, puis il y a un grave problème à part de ça. Bien, écoute, merci beaucoup, Joanne, pour cette belle chronique-là aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de te jaser. On n'a pas tout jasé de ce qu'on voulait jaser, mais on aurait pu jaser jusqu'à minuit à soir.
Oui, on va en garder pour la prochaine fois.
Yes! Lâche pas, mon ami.
OK, je te remercie, puis bonne route à tout le monde.
Bye-bye.
OK, salut, bye.
Joanne Couture, que je vous invite à devenir ami sur les plateformes Facebook et compagnie pour en apprendre plus sur le dossier des femmes dans l'industrie du camionnage, sur le OIDA, peut-être devenir membre si vous êtes un broker. Bref, elle a une mine d'informations. Fait que restez là, on fait une petite courte pause et on vous revient de l'autre côté.